franceinter.fr.
Bonjour. Société coopérative et participative, SCOP. On a beaucoup entendu cet acronyme ces derniers temps dans les médias. Les SCOP, ce sont tout simplement des entreprises dont les salariés sont propriétaires d'au moins 51% du capital. Lorsqu'on en parle, c'est souvent pour évoquer le sort d'une entreprise en difficulté que les salariés essayent de sauver en la rachetant. Parmi les plus emblématiques, il y a eu Fralib, Cifrance, devenu My Ferry Link, ou Le Jabi. Mais ces coups de projecteur donnent une image en partie fausse de ce que sont les SCOP. Les SCOP, comme vous allez l'entendre dans le reportage que nous vous proposons ce matin, ce sont aussi et même en majorité des entreprises créées dès leur origine en statut coopératif ou transmises par un patron de PME à ses salariés sans pour autant qu'elles soient en difficulté. Ces entreprises sont souvent pérennes, certaines ont déjà plusieurs décennies d'existence, et c'est un statut qui permet aussi aux salariés de trouver un nouvel intérêt dans l'entreprise. Un statut que l'actuel gouvernement cherche à promouvoir, car, dit-il, les SCOP permettent de préserver, voire de créer de l'emploi, ce qui n'est pas négligeable en ces temps de crise. La loi sur l'économie sociale et solidaire, votée l'été dernier, contient des dispositions pour favoriser le développement des SCOP, qui ne sont qu'un peu plus de 2000 en France aujourd'hui, une goutte d'eau dans l'océan des entreprises. Voici 4 de ces SCOP en Auvergne. SCOP, les salariés entrepreneurs, c'est un reportage de Claudie Hamon.
Interception, le magazine de la rédaction.
Le jour où on a redémarré l'entreprise, et le plus joli bruit qu'on peut entendre dans l'entreprise, c'est le mouvement du métier. On dirait que c'est le cœur qui bat et c'est le cœur de l'entreprise. Et c'est ça la production. C'est d'entendre ce bruit tous les jours, ça veut dire qu'il y a de la production, du chiffre d'affaires et tout. Et la vie de l'entreprise, ce bruit.
Cet homme qui parle de sa machine avec tant de ferveur est Roland Arnaud, PDG de l'entreprise Fontanille. Installée sur les hauteurs du Puy-en-Velay, cette entreprise est spécialisée depuis plus de 150 ans dans le tissage de dentelles fuseaux élastiques et des fixations silicone. Un savoir-faire qui a bien failli disparaître en 2012 lors de la mise en liquidation judiciaire de la société. À l'époque, 46 salariés sur les 66 décident de réinvestir toutes leurs indemnités dans la SCOP. Visite guidée avec Roland Arnaud.
Donc voilà, on arrive dans l'atelier production, ce qu'on appelle production écrue. Hein. Là, vous avez toutes les machines de production. Donc c'est un atelier qui tourne en 3-8, du lundi au vendredi 1h du matin. Et ensuite, on a un autre atelier qui sont les fuseaux et un atelier de tissu industriel où on travaille pour le numéro 1 mondial du pneumatique. Fontanille, c'est où a été inventé le bas autofixant d'une immeuble dans les années 82-86 à peu près. Et donc après, on l'a décliné sur tout ce qu'on appelle les bas de contention. Et demain, on va le décliner peut-être plus dans le médical, encore plus pointu. Donc l'atelier tissage. Très simple mais très technique. Parce que le fait qu'elle soit très transparente et aussi oblique comme ça, vous ne faites pas avec des métiers modernes ça. Il n'y a qu'avec des métiers fuseaux élastiques qu'on peut faire ça. Le fuseau, c'est la base de Fontanille à l'époque. Fontanille a été créé autour du fuseau. Donc c'est vraiment Thierry qui a le savoir et tout. Comment on fait un jacquard? Comment on le monte sur le métier? Actuellement, il n'y a plus d'école qui enseigne le fuseau, plus rien. Thierry, c'est la mémoire du fuseau dans l'entreprise.
Thierry, vous avez appris au Puy-en-Velay?
Sur le tas, comme ça. Hein, y a pas... À mon époque, il n'y avait déjà plus d'école. Donc je l'ai appris comme ça. Là.
Voilà. Combien de temps vous êtes ici chez Fontanille?
Ça doit faire 32 ans à peu près. Et oui.
Et depuis la SCOP, qu'est-ce qui a changé pour vous?
On a un peu moins dans les ateliers, donc on est un peu plus polyvalent, quoi. Donc il faut faire des montages, il faut aider les gens pour faire des louages et tout. Donc c'est un ensemble, quoi. Alors qu'avant, on était plus nombreux, donc je restais plus dans la recherche et développement, disons. Alors maintenant, on a moins de monde, ça veut dire plus de travail pour partout, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant, hein. C'est un plus. Hein.
Vous vous souvenez, quand il y a 2 ans, avant la SCOP,
oui.
À la fin De l'aventure Fontanille, société anonyme.
Ah oui, un peu, oui, je m'en souviens bien, oui. Oui, oui, c'était un peu mouvementé, c'était une belle expérience. Parce qu'il a fallu quand même un peu défendre un peu notre croûte quand même. Il a fallu faire en sorte que ça marche. Enfin bon, ça a marché. Ça n'a pas été facile. C'est comme ça.
Il fallait y croire.
Fallait y croire, oui. Non, mais c'est bien. C'est bien. On est là. Ça va faire 2 ans le 1er décembre, donc on peut espérer encore plusieurs années. Et puis bon, moi, je suis sur la fin. Il faut que les jeunes ils arrivent et puis ils fassent vivre la boîte. Quoi. Voilà. C'est le but. Hein. C'est le but de Roland, c'est le but de tout le monde. Hein. De toute façon, c'était ça ou au chômage. Alors, pas prendre de solution. Hein. La SCOP, je pense, c'est des trucs qui sont à développer en France, oui, c'est sûr. Oui. Je pense que ça nous a sauvés, nous, mais je pense que ça peut sauver d'autres boîtes, je pense.
Donc là, ce sont les gommes élastiques, ce sont les gommes. C'est ce qui rend le ruban élastique. Voilà, c'est de la gomme. Alors que les autres articles, c'est de l'élastane, c'est ce qu'on appelle le lycra. Et là, c'est de la gomme. Et là aussi, on fait des produits avec des techniques anciennes. Hein. Donc, c'est un métier à navette. Hein. Et vous voyez, là, il y a 4 métiers. En France, il en reste 5. Et nous, on en a 4. Voilà, et vous voyez la navette. Hein. J'aurais expliqué qu'au début du projet SCOP, c'est plutôt toi qui étais l'initiateur, qui est venu me voir pour me proposer le projet. Moi, j'en ai été leader après, mais l'initiateur, c'est Paul, qui a pensé au projet SCOP et tout. Puis après, voilà.
Vous faisiez quoi avant
Moi, j'étais secrétaire du comité d'entreprise à l'époque. J'étais sous l'étiquette CFDT, en fait. Donc, j'avais des infos par rapport à la mauvaise santé de l'entreprise. Et c'est vrai que c'était une idée qui avait germé déjà nous 2 ans auparavant, quand on avait fait le premier plan de redressement. On avait émis cette solution en interne, entre nous en fait. Mais bon, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fini par avoir des difficultés financières. Donc on attendait le premier faux pas en fait de l'entreprise pour pouvoir lancer la machine. Par contre, le facteur qu'il fallait, c'était avoir une équipe en 4 ans motivée. On avait la chance d'avoir du personnel qui a cru aussi au projet, parce qu'il faut quand même investir, hein, il faut quand même mettre ses sous. Donc voilà. Mais après, ça prouve aussi quand même que les gens avaient quand même un amour de leur société.
Elle était vraiment mal, l'entreprise, elle était presque sabordée.
Vous savez, entreprise, moi quand je suis rentré, on était 160 ou 170, on n'était plus que 73. Hein, c'était à chaque fois le personnel qui était...
Qu'il y a eu des erreurs de gestion
De toute façon, je pense qu'il y a eu des erreurs de gestion. Peut-être aussi, on avait une masse d'encadrement qui était peut-être un peu trop par rapport à... On avait, on va dire, une grosse tête, un petit tronc à des moments donnés. Et après aussi, le contexte économique aussi, il ne faut pas non plus... Après, il y avait des solutions qui pouvaient permettre de sauver cette entreprise. Solutions que M. Roland Arnaud a trouvées en fait dans son projet, qui fait que maintenant, avec la restructuration qu'on a fait, les articles qu'on a gardés en fait qui sont rentables par rapport à ce qu'on faisait avant, qui n'étaient pas bien rentables, que le marché asiatique nous avait quand même plus ou moins piqué, eh ben, on arrive à des résultats maintenant où la boîte tourne correctement.
C'est maintenant vous qui piquez du marché aux Asiatiques, c'est ça?
Nous, de toute façon, on est dans des niches, on va dire, on travaille beaucoup pour le médical, on travaille aussi dans le haut de gamme. Donc de toute façon, il ne faut pas se leurrer, tout ce qui est basique, de toute façon, pour piquer au milieu asiatique, ça va être dur. Mais bon, il y a toujours des innovations à faire et à apporter. C'est vrai qu'on a une équipe de gens qui sont quand même motivés, très compétents aussi. Donc on essaye toujours d'innover et de trouver de nouveaux marchés.
Vous avez rentabilisé votre mise?
Notre mise, elle est dans le capital de la société. Donc à tout moment, on peut la perdre. Vous savez, on est sociétaire. Donc on a des sous dans l'entreprise. Ces sous-là, on les aura que si l'entreprise perdure. Si elle vient à couler, on rentre dans un régime où on perdra tout le monde. Hein, de toute façon. Donc le risque, il est permanent, on va dire. Mais bon, on travaille, et dans le contexte actuel, comme on voit, en plus, une boîte textile, je veux dire, et industrielle dans le bassin du Puy, c'est quand même bien qu'on ait gardé ça ici.
Quand j'ai vu que l'entreprise n'allait vraiment pas, à un moment, je voulais devenir entrepreneur. Ensuite, on m'a proposé de prendre le projet en main de Scop. Je me suis lancé dans ce projet. Et c'est vrai que je me définis comme un entrepreneur de Scop et tout. C'est-à-dire que je ne suis pas assis à vie dans mon poste de dirigeant. Tous les 4 ans, mon poste est remis en jeu, hein, puisqu'il y a une élection qui se fait tous les 4 ans. Donc déjà, je sais que dans 2 ans, eh bien, écoutez, il y aura une élection. C'est un choix des salariés, des sociétaires, qui, par rapport au parcours où j'ai amené l'entreprise, au travail que j'ai effectué, de ne pas vouloir continuer mon mandat, ou soit j'ai envie de continuer, soit je serai élu, pas élu, je suis peut-être le PDG, mais l'entreprise, elle ne m'appartient pas en vérité. Bah déjà, rentrez. Donc déjà ici, voilà, vous avez Hélène, donc, qui était styliste, et qui est devenue styliste commerciale. Donc aussi, ça fait partie de notre projet, c'est la polyvalence. C'est-à-dire, par rapport au projet de la Scop, on ne pouvait pas rester sur un seul métier. Donc, Hélène a suivi une formation en anglais. Et ensuite, elle est styliste et commerciale. Sabine, qui est commerciale et qui aide Hélène dans son évolution, voilà.
Sabine, vous qui êtes une ancienne de Fontanille, vous avez dû voir la différence avant 2012 et...
Ah, tout à fait, oui. Pour moi, personnellement, ce qui a changé, c'est que je suis beaucoup plus concernée par tout ce qui est production. Avant, j'étais coincée derrière mon ordinateur et je ne faisais que de l'administratif, que de la frappe, saisie de commandes, et ça s'arrêtait là. Là, maintenant, je dois beaucoup plus m'intéresser aussi où en est la production, la recherche... Pour répondre directement à mes clients et aussi par simple intérêt, parce que ça m'intéresse quand même aussi de savoir où en sont nos productions et qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers et comment on avance.
Vous avez une vision plus générale de l'entreprise puisqu'elle vous appartient un petit peu.
Tout à fait, un peu beaucoup, oui. Oui, oui, c'est notre outil de vie maintenant et c'est pour nous qu'on travaille et voilà.
Qu'est-ce que vous avez mis sur la table pour... acquérir votre outil de travail?
60% de notre prime de licenciement, plus un an de mon droit au chômage qu'on a eu en subvention pour la création de la société. Au début, on a hésité, on a eu peur, on s'est posé des questions. Moi, personnellement, je ne savais même pas ce que c'était une SCOP. Donc, il a fallu déjà chercher ce que c'est. Et après, en parlant entre nous, on a trouvé de la sécurité et on s'est rendu fort, je pense, les uns les autres. Parce qu'il fallait surmonter la peur.
Et Roland Arnaud, vous pensez que ce statut de SCOP permet d'être concurrentiel?
Moi, je dirais qu'on est comme une entreprise normale. Hein. Après, c'est vrai que c'est la structure qui veut qu'on a choisi le modèle SCOP. Mais au niveau du client, qu'est-ce qu'il recherche, le client? Il recherche un produit de qualité, technique, un prix, des délais. Voilà.
Il ne s'intéresse pas à la SCOP.
Hein. Après, c'est vrai que l'image des SCOP en France a souffert pendant un moment. Mais aujourd'hui, si vous avez, je veux dire, un dirigeant et des gens qui ont bien compris l'économie, comment fonctionne une entreprise économiquement... On n'est pas différent d'une autre entreprise. Ensuite, c'est plus d'équité. Je veux dire, les salaires, c'est vrai que nous, ici, ils sont de quoi? De 1 à 2,3, la différence. Mais elle n'est pas grande. On est une petite entreprise, on est une PME. Vous savez, il y a beaucoup de PME, ça n'existe pas, les parachutes dorés et tout. Notre bonheur à nous, c'est vrai que c'est construire ce projet et l'amener au bout. Mais notre bonheur, ce n'est pas licencier des gens. Notre bonheur, c'est quoi? En tant que dirigeant, c'est le jour où je vais créer 1 ou 2 emplois.
D'embaucher à la Fontanille bientôt?
Je dirais que dans 1 à 2 ans, j'aimerais embaucher, c'est-à-dire soit embaucher, soit former des apprentis, et puis les amener dans la culture de la SCOP, la culture de l'entreprise, et leur donner envie aussi d'y rester, et d'aimer les produits qu'ils font, et de s'impliquer dans l'entreprise. Voilà, c'était mon projet d'entreprise en tant que dirigeant.
Les bandes élastiques et la dentelle de Fontanille et on revient au pays de la gentiane et de la Nice. Donc ici, on est dans la plus ancienne SCOP d'Auvergne, la Velay SCOP Nutrition, spécialisée dans les compléments alimentaires pour animaux. Donc voilà, les vaches aussi ont droit à leur verveine et à leur gentiane. D'ailleurs, ça sent, hein, on sent cette odeur d'apéro des grands-mères.
Dominique Pello.
Vous avez fait toute votre carrière ici à Velay?
C'est ça, oui, j'y suis depuis le début, depuis 84, c'est ça, ça fait 30 ans à peu près. Ouais.
Vous êtes devenu sociétaire rapidement?
Au bout de 6 mois, je crois, 3 mois, 6 mois, un truc comme ça au début. Quoi.
Ça fait quoi d'être sociétaire de son entreprise?
Si, au début, on a l'impression de prendre de l'importance, quoi, puis ça fait l'impression d'être une deuxième famille, quoi. Voilà. Bon, après, c'est sûr qu'au bout d'un pas mal d'années, bon, les choses changent, hein. On s'adapte. Mais bon, moi, je trouve que c'est joli pour une SCOP avoir 30 ans. Et puis, ce qui se passe, c'est que moi, mon père a été inséminateur au départ ici. Alors,
il a fait partie de l'aventure.
Il a fait partie de l'aventure de ceux qui ont monté les murs, quoi, ici. Donc après, c'est ce qui a fait que j'ai fini ici, quoi. J'étais venu juste pour trouver un peu de travail pendant un été, et puis voilà.
Plus tard, vous y êtes toujours.
Je suis encore, ouais. J'espère que ça va durer.
J'imagine que vous ne pensez pas tous les jours que vous êtes sociétaire. Alors, c'est sûr que ça doit faire peut-être un peu bizarre au début, mais ça ne vous empêche pas. Vous avez un poste.
Ouais. Votre travail, ouais, puis bon, ce qu'il y a, c'est qu'en étant rentré au début, j'ai vu l'usine s'agrandir et j'ai eu la chance de pouvoir passer à tous les postes. Et bon, on a toujours écouté dire, c'est vrai, des scopes qui avaient cet âge-là, quoi, c'est rare. Hein. Donc,
c'est quoi le secret?
Il faut quand même de l'entente entre nous. Hein, et puis l'avantage des scopes, c'est-à-dire qu'on cherche à ce que le travail se finisse. On ne va pas forcément regarder l'heure pour partir à l'heure, ou s'il faut venir un peu plus tôt, ou s'il faut donner un coup de bourre. Tout le monde sait qu'à la sortie, il va y avoir un avantage. Donc tout le monde vient donner le coup de main pour que ça se termine, quoi que ça se fasse.
Et c'est équitable.
Voilà.
Donc Michel Ribes, je suis le directeur général de la société depuis le 1er janvier 2012.
C'est quoi le secret de longévité selon vous alors?
Je pense que ce qui me paraît important dans une SCOP et qui permet justement peut-être de la faire durer un peu plus en cas de mauvaise passe ou de coup dur, c'est dans la distribution et dans la répartition des résultats. Aujourd'hui, dans une SCOP, qui a la chance de faire des bénéfices, si la SCOP est aussi dotée d'un accord de participation, d'abord, on arrive à défiscaliser une partie importante, et deuxièmement, on peut faire des distributions qui sont complètement compatible avec la pérennité de la SCOP, je m'entends. Ça veut dire qu'on peut très bien distribuer une partie de résultats dans le cadre de l'accord de participation, mettre l'égale partie en provision pour investissement. Donc on sait que cette provision pour investissement doit être investie dans les 4 ans qui suivent. Et de ce fait, la provision pour investissement tient lieu aussi de réserve. Donc quand on a des résultats dans une SCOP, on augmente forcément les fonds propres de la SCOP. Donc, de ce fait-là, on constitue des réserves qui sont très intéressantes pour les années difficiles.
C'est vous qui décidez cette part qui reste dans l'entreprise?
C'est le conseil d'administration qui décide de la répartition du résultat, chaque exercice, en fonction des aléas du moment, voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut privilégier, est-ce qu'on veut distribuer un peu plus de dividendes pour essayer de faire venir quelques sociétaires de plus, ou est-ce qu'on veut défiscaliser au maximum et faire un maximum de réserves. Voilà, c'est une décision de gestion qui est importante, mais en tout état de cause, en cas de résultat dans une SCOP, il n'y a pas des primes qui sont mises pour éponger le résultat. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des réserves. Et aujourd'hui, je dirais qu'une SCOP, avec les mêmes résultats qu'une société classique, je suis quasiment certain qu'elle aura plus de réserves et des capitaux propres supérieurs.
Oui, certains détracteurs jalousent un petit peu cette défiscalisation des bénéfices.
Oui, mais elle a une contrepartie. C'est que, je dirais, la SCOP est obligée d'investir. Donc, cette défiscalisation est liée à un investissement, donc à une pérennisation de la SCOP. Donc, on n'a pas de cadeau de l'administration non plus. Je trouve que c'est bien qu'on défiscalise une partie des résultats pour permettre sa pérennité. Ça me paraît être quelque chose de très important.
Et donc, vous nous confirmez, ça sent bien le fenouil, hein ?
Oui, non, mais ça peut sentir la gentiane de temps en temps, parce qu'on utilise quand même beaucoup de plantes naturelles. Voilà.
Olivier Roy, je suis responsable commercial de Velescop depuis maintenant 6 ans. On est une petite société de 15 personnes et tous nos produits sont distribués sur la France entière avec un réseau d'une quarantaine de distributeurs.
C'est quand même un aliment très spécial, hein.
Comme son nom l'indique, on est des aliments complémentaires. Pour vous donner une idée, une vache, elle mange à peu près entre 15 et 20 kilos de matière sèche par jour, mais nous, on va intervenir dans la ration de la vache entre 100 à 200 grammes par jour. Donc on va avoir des produits dans lesquels effectivement vous avez cité le calcium, le phosphore, mais dans nos spécialités, on a entre 70 et 80 matières premières. Des plantes, des algues, des oligo-éléments, des minéraux, tout pour encadrer le bon fonctionnement du métabolisme et on travaille, nous, dans un objectif de santé de l'animal.
Alors, ça sent le poisson.
Ici, ça sent le poisson, mais vous êtes dans le laboratoire où vous avez toutes les sortes de vitamines et d'oligo-aimants qui peuvent exister. Et on fonctionne, nous, on fait mise sur support, des pré-mélanges qui vont rentrer dans des trituras, voilà. On a des huiles essentielles qui rentrent aussi dans des fabrications, toujours pareil, pour stimuler le métabolisme des animaux.
Pour d'autres scopes qui viennent
en
vous voir.
En tout cas, on est une grosse interrogation. Depuis 6 ans, on a pas mal ouvert la société sur l'extérieur, en communication, auprès de nos fournisseurs, auprès de nos prescripteurs, auprès de nos distributeurs. Donc on fait des séminaires 2 fois par an ici. L'usine est ouverte, on fait des portes ouvertes pour les éleveurs, voilà. Et au moins, en tout cas, on communique sur ce que c'est qu'une SCOP, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est en arrivant. Encore ce midi, on était avec donc des gens qui nous fournissent les semences pour les pâtures, donc qui représentent un grand groupe allemand. Et effectivement, une grosse partie du repas était sur d'expliquer comment on fonctionnait au niveau de notre organisation des salariés. Après, on est dans un monde, nous, où il y a quand même beaucoup de gens qui sont des indépendants. Et si l'organisation, on va dire, décisionnelle intéresse les gens, si l'organisation en matière d'intéressement fiscal intéresse les gens, sur le fait que l'entreprise n'appartienne plus aux gens qui l'ont créée, je pense que c'est un des points les plus qui bloquent le plus. Quoi. C'est des gens qui créent leur entreprise. Et c'est leur bébé et c'est plus compliqué de dire, voilà, c'est dans des sociétés qui existent déjà où les gens ont déjà construit de quelque chose de solide, c'est un peu plus difficile, mais j'allais presque dire, c'est aussi humain quand on s'est défoncé sur une activité qui marche, voilà. Je pense que même au niveau de Velescop, il y a des dirigeants qui ont quitté la société il y a 2 ans pour partir à la retraite. C'était un peu dur parce que c'était leur truc et finalement quand on part, quand on a été en SCOP longtemps, l'entreprise elle reste à tous les autres sociétaires. Quoi.
Et ça, c'est un peu coincé ?
Il y a des gens, dont ceux qui avaient fait Velescop, ils disaient c'est super, on l'a fait en SCOP, mais bon, en même temps, on l'aurait peut-être bien fait tout seul aussi. Donc voilà, il y a le pour et le contre, hein, comme dans toute aventure humaine.
«
En 4 ans, les SCOP ont sauvé, mais aussi créé 10 500 emplois en France. Si elle marque davantage les esprits, la reprise d'entreprises en difficulté ne représente que 9% des SCOP, beaucoup moins que les créations, les transformations d'associations ou les transmissions. Dans le Puy-de-Dôme, plus de 6 entreprises sur 10 ont choisi ce statut dès leur création. C'est le cas de Code Couleur, une jeune agence de communication et de développement multimédia. Les 3 associés, tous âgés de moins de 30 ans, sont installés dans une zone artisanale tranquille à Vic-le-Comte, à une 20aine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Nous sommes accueillis par Éric Marguin et Marion Rosé, la gérante. Donc là, on est chez vous. Avant que, qu'est-ce que vous faites ici
Donc nous, on est une agence de communication. Donc notre travail, c'est créer des identités pour les entreprises, donc des logos, des chartes graphiques. Et après, on fait aussi la création de tous les outils de communication, donc sur support papier, donc tout ce qui est cartes de visite, affiches, flyers, et sur support numérique, donc site internet, etc.
Alors, Éric et Marion, en fait, vous avez eu l'esprit SCOP, enfin l'esprit solidaire, dès le départ, en fait, Éric.
En fait, c'est assez naturellement, je dirais, que ça s'est fait, parce que bon, bah, on partage, on va dire, des idées de l'entreprise qui sont que les salariés doivent être impliqués. Bon, il s'avère qu'on est 3, qu'on avait tous les 3 envie de créer notre structure et de partager les décisions. Donc, il y a une gérante, c'est Marion. Mais elle décide pas tout.
C'est-à-dire ?
Non, bah, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les décisions sont prises à 3, réellement. Bon, c'est assez simple dans notre cas, on n'est que 3. Il y a des scopes plus grandes, où c'est peut-être plus compliqué à gérer. Mais...
Vous avez vraiment l'impression d'avoir monté votre entreprise ? Vous êtes chef d'entreprise ?
Oui, on est entrepreneur salarié. On partage certaines aspirations des entrepreneurs... Où bah voilà, on a conscience qu'il faut trouver des clients, et qu'il faut une vraie relation clientèle. Et en même temps, on partage les aspirations des salariés à des conditions de travail correctes qu'on essaie d'appliquer ici, pour nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément le plus facile. Autant l'année dernière, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé parce qu'on a eu beaucoup de travail et qu'on se lançait, donc il y avait besoin de vraiment constituer des réserves. Autant cette année, on a réussi à prendre des vacances normalement ou presque. Je pense qu'on va atteindre les 5 semaines. Bon, après, il y a des semaines où on travaille plus de 35 heures, mais la normale, c'est quand même d'essayer d'y rester.
Mais on arrive quand même à couper complètement le week-end. On arrive à couper complètement pendant les vacances. Enfin oui, on est entrepreneur salarié, mais moi, à ce niveau-là, en tout cas, j'ai plus la vision d'un salarié, quoi. C'est-à-dire que mes vacances, j'y tiens, et mes week-ends déconnectés, j'y tiens aussi. Donc, sauf vraiment période de gros rush où vraiment faut assurer parce que on s'est engagé sur un planning et donc faut livrer. Et c'est pas une situation dans laquelle on se retrouve fréquemment. Donc non, je trouve que on arrive quand même à bien gérer les temps de travail et les temps de week-end et de vacances.
Il faut quand même s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que si on pense au travail tout le temps, en tout cas à titre personnel, je sais que je ne tiendrai pas dans la durée. Qu'au bout de 2 ou 3 ans, je vais être fatigué et j'aurai envie d'arrêter. Donc tant que je fais des horaires corrects, tant que j'ai envie de travailler sur les projets, moi je m'épanouis dans mon travail et c'est un peu notre projet collectif, quoi.
Vous ne vivez pas ensemble, vous ne partez pas ensemble en vacances.
Alors, Marion et moi, nous sommes en couple, donc si. On se supporte.
Et vous avez l'intention de vous développer, d'embaucher ?
On n'est pas contre l'idée d'embaucher, mais on voudrait que ça se passe avec quelqu'un qui ait la même approche que nous. Que ce ne soit pas un salarié, mais que ce soit un associé à terme.
Moi, je pense au terme de start-up. Vous considérez que vous êtes une start-up ?
Moi, je pense qu'on ne peut pas considérer comme une start-up, parce qu'une start-up, elle va naître sur une idée, sur un projet bien précis. L'objectif, ça va être de générer un chiffre d'affaires très grand, très rapidement, pour créer du bénéfice. L'objectif de la start-up, c'est vraiment de créer du bénéfice. Nous, on est dans l'idée de nous créer, nous-mêmes, un emploi durable. Pour beaucoup de gens, l'économie sociale et solidaire, ça va être l'humanitaire, ça va être ce genre de choses. Alors qu'en fait, c'est juste une organisation de l'économie qui va faire en sorte de mettre le salarié au cœur du processus. Il y a des entreprises qui vont faire dans l'humanitaire qui n'ont absolument rien de l'économie sociale et solidaire. Et il y a des entreprises comme nous qui vont avoir un objectif qui n'est absolument pas social dans le sens aide sociale. et qui vont avoir pourtant toute leur place dans l'économie sociale et solidaire.
Vous affichez SCOPE quand même, ça fait partie de votre identité.
Oui, oui, tout
oui,
à fait.
Oui. C'est écrit sur les factures.
En fait, il y a deux choses. D'abord, pour les appels d'offres, par exemple, on a intérêt à le mettre en avant parce qu'il y a cette notion de pérennité. On peut avoir les reins solides financièrement parce qu'on est en SCOPE ou ce genre de choses. Aussi parce que ça a le vent en poupe, hein, faut le dire. Et après, ce qu'on veut essayer d'éviter de faire, c'est de brandir ça comme un étendard en disant choisissez-nous parce que on est tendance, on est SCOPE. Enfin, c'est pas notre principal argument de vente de dire qu'on est en SCOPE. On communique avant tout sur notre travail.
Les témoignages sont unanimes. On travaille autrement dans une SCOPE, peut-être parce que l'entreprise nous appartient un peu et que les décisions sont prises collégialement. En tout cas, ce statut a changé la vie des 12 salariés associés de la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand, ancienne propriété du groupe Chapitre. Non seulement ils ont sauvé leur enseigne, mais ils ont embauché 18 personnes. 3 mois après la réouverture, la librairie tient bon et le moral semble au beau fixe.
Ah oui, alors vous n'êtes pas la caisse.
Là, c'est l'accueil du magasin. D'accord. Les caisses sont plus loin. Vous partez à droite quand vous êtes dans les disques à droite à nouveau.
Merci.
Je vous en prie. Librairie Les Volcans, bonjour.
Oui.
Donc, eh bien, Martine Lebeau, co-gérante de la librairie Les Volcans, ex-salarié Chapitre depuis 33 ans.
Et Maxime Lautier, co-gérant de la librairie Les Volcans.
Qu'est-ce que vous avez découvert en montant ce projet, en reprenant votre outil de travail en fait?
Alors on a découvert beaucoup de choses, parce que notre outil de travail, la librairie, on la connaissait par cœur. Après, d'abord, on a découvert tout l'aspect administratif d'un montage de dossier comme ça, l'aspect gestion. On est devenus les responsables de l'entreprise, donc on a découvert des métiers totalement différents. Moi, pour ma part, je ne fais plus du tout ce que je faisais avant. Alors là, pour le coup, si vous voulez que je vous cite les métiers que j'ai découverts, il y en a pour 3 jours. Donc ça va dans tous les sens, oui. On a fait les travaux, on a rouvert des comptes, donc ça va de la compta, de la gestion, des choses purement administratives, et puis des choses très basiques. On a fait de la peinture, on a posé du plancher, on a fait plein de choses de ce genre, donc oui, tout est, mais c'est motivant en même temps.
Ça représentait un gros effort financier pour vous?
Pas vraiment.
on est d'accord là-dessus. Tu veux répondre?
Le risque financier, il est pratiquement nul pour nous, puisque pour capitaliser l'entreprise, amener ce premier rapport, on a mis intégralement nos indemnités de licenciement et une partie de notre chômage. Donc c'est de l'argent que, de toute façon, si on avait gardé un boulot, on n'aurait pas eu. Donc, on l'a reversé au capital de l'entreprise pour monter à 300 000 euros et commencer l'investissement pour monter l'entreprise.
Chacun s'est déterminé, moi ça m'intéresse, moi ça m'intéresse pas. Ceux qui étaient intéressés ont poursuivi l'aventure, certains l'ont quitté en cours de route et on s'est retrouvés au final à 12. La seule chose qu'il a été décidé, mais en commun, c'est que pour rentrer dans la SCOPE, il fallait mettre l'intégralité de ses indemnités et 50% de ses droits au chômage. On ne gardait rien, rien, rien. On ne l'a pas mis au centime près, mais je vous jure que c'est proche, c'est à l'euro près. Hein. C'était ça la condition. C'était le projet que l'on voulait mener. C'est comme ça qu'on voulait le mener. On savait que pour reprendre une librairie de cette importance, il fallait un certain capital. Et que si on commençait déjà à dire, oh ben moi j'amène 3 000, entre les autres 5 000, et qu'au final on avait 25 000 euros à 12, c'était pas sérieux. Ça n'allait pas, ça.
C'est une première crédibilité par rapport aux financiers. Ensuite,
ça prouve qu'on y croit. Ouais. On met tout.
Mais chacun a fait son effort. Hein. On a fait des efforts financiers, peut-être pas directement, mais indirectement. On a supprimé nos tickets restaurants, on a supprimé notre 13e mois, on a supprimé notre mutuelle.
On s'y retrouvera un moment ou un autre. Et puis on a un emploi, il ne faut pas l'oublier. Et puis on a surtout un emploi qui nous plaît, c'est le principal. Voilà. Et puis la librairie existe. Et puis on espère qu'elle est partie pour de longues, longues, longues années.
Alors, je voudrais commander La vie d'Antonio Gramsci, un livre de poche. Gramsci.
Je m'appelle Nadine Marbeco, je suis au Volcan depuis 25 ans. Depuis notre réouverture, tout se passe formidablement bien. Nous avons retrouvé notre clientèle habituelle, nous avons retrouvé des clients qui ne venaient plus sous l'ancienne enseigne. Et on peut dire que le pari est gagné. L'ouverture a été un moment assez émouvant, joyeux. Ça a été la récompense de longs mois de lutte, de doute, d'acharnement et de questionnement autour de « allons-nous retrouver notre clientèle ? Est-ce que les clients ne vont pas aller ailleurs retrouver ?» Et il se trouve qu'ils n'ont pas trouvé l'équivalent ailleurs. Et de plus, les gens, un bon nombre de clientèles nous a soutenus de diverses manières, soit financières, soit morales. Et ça a été un des facteurs importants sur le montage du projet. Mais par contre, maintenant, on apprend tous les jours. Là, il est évident que la première des choses, c'est accueillir les clients, faire la fin d'année. Et ensuite, viendra le temps des formations, de peaufiner et de se mettre vraiment dans la peau d'entrepreneur.
Et vous avez embauché aussi pas mal de...
Oui, bien sûr, parce que 12 de l'ancienne équipe sur 34 que nous étions, il est évident qu'une boutique de 1 700 m² doit avoir le personnel adéquat. Donc là aussi, nous avons bien réussi nos recrutements pour des néophytes, hein, parce qu'on n'est pas des chefs d'entreprise qui embauchons avec les critères traditionnels auxquels on s'attend. Nous avons reçu près de 500 CV, donc il a fallu effectivement dépouiller tout ça, voir les profils, et ensuite, collégialement, nous avons reçu les gens, on avait besoin d'un ressenti, et tout s'est très bien passé.
Qu'est-ce qui a changé depuis cette aventure un peu brutale quand même? Qu'est-ce qui a changé en vous par exemple?
On travaille avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de liberté d'esprit, liberté de penser, liberté d'agir. On ne se sent plus infantilisé parce que sous l'ancienne enseigne, c'était ce que l'on ressentait et de plus en plus au fil des jours. Donc là, c'est voilà, d'être enfin de vrais adultes, de vrais libraires qui pensons, qui agissons. Et puis... si ça peut donner envie à d'autres personnes dans d'autres entreprises de garder, de sauvegarder un métier, de pérenniser leur entreprise.
Il est là. Là, c'est bon. Là, c'est bon.
Scope, les salariés entrepreneurs, c'était un reportage pour Interception de Claudie Hamon de France Bleu Pays d'Auvergne. Prise de son Gilles Gallinaro, mixage Bernard Lagnel. Pour approfondir la réflexion sur les Scope, après ce reportage, nous sommes allés interviewer Philippe Askenazy, économiste et chercheur au CNRS, à qui nous avons d'abord demandé pourquoi il y a si peu de Scope en France, un peu plus de 2000 seulement.
Disons, déjà, c'est une forme de capitalisme qui est historiquement peu présent en France. Même s'il y a eu des mouvements qui étaient nés au XIXe siècle, il n'a jamais réussi à prendre dans une économie où le capitalisme familial au début était très présent et ensuite s'est progressivement transformé en un capitalisme dominé par des grands groupes internationaux tout en ayant encore tout un tissu de PME familiales. Donc, la France, comme d'ailleurs la plupart des grandes nations développées, n'a pas culturellement un capitalisme qui est porté vers des scopes qui ont un statut quand même très particulier, un processus démocratique qui peut même apparaître d'une certaine manière comme contradictoire avec le capitalisme lui-même, où l'apporteur de capital est soit... unique, soit des actionnaires. Les économistes parlent de principal et les autres sont des agents. Ils doivent être normalement distingués l'un de l'autre.
Alors, on sent aussi une certaine réticence parfois du monde économique. Dans la loi sur l'économie sociale et solidaire récente, il y a une disposition, par exemple, qui a fait se lever vent debout les organisations patronales. C'était le fait pour les très petites entreprises, moins de 50 salariés, de pouvoir prévenir leurs salariés au moment de la cession de l'entreprise pour qu'éventuellement ils puissent faire une proposition de reprise en scope. Il y a une réticence de la part du patronat français de plus alors, traditionnel, disons.
Disons que le patronat français, en fait, très éclaté. Il y a aujourd'hui plusieurs organisations patronales. On voit l'économie sociale et solidaire dans son ensemble qui demande à être représentative dans les négociations au niveau national. Et donc, il y a certainement une réaction aussi de repli, de défense d'une certaine corporatisme des organisations patronales qui ne veulent pas un trop fort développement de ce nouveau type d'entreprise. Donc, je pense que voilà, c'est plutôt aussi révélateur d'une situation où aujourd'hui, une part des acteurs du dialogue social du côté patronal, en fait, ne sont pas si représentatifs que cela de la diversité du monde des entreprises.
Le gouvernement a dit vouloir doubler ses scopes. Ça vous paraît un objectif ambitieux, trop peu ambitieux?
Bon, déjà, il n'a pas véritablement donné un horizon pour ce doublement du nombre de scopes. Ce que l'on peut regarder, c'est qu'il y a une dynamique depuis plusieurs années de progression du nombre de scopes. On est, selon les années, entre plus 5%, plus 10% de scopes. Donc, vous voyez, en gros, en une décennie, on peut tout à fait avoir un doublement par rapport au niveau actuel où on a un peu plus de 2000 scopes. C'est tout à fait, disons, réalisable, mais sans nécessairement avoir de mesures particulières de la part du gouvernement. Aujourd'hui, les scopes sont en partie à la mode, pas uniquement parce qu'on parle souvent des reprises d'entreprises par leurs salariés, en fait c'est un nombre infime des scopes, mais bien plutôt une crise du moral du capitalisme. Et certains entrepreneurs veulent porter de nouvelles formes d'entreprises où ils impliqueraient leur main-d'œuvre comme salariés, tout le monde étant en quelque sorte à égalité de voix dans la décision au niveau de l'entreprise. Donc de la même manière qu'il y a des entrepreneurs qui se tournent vers l'action humanitaire, eh bien, on a probablement aujourd'hui une mode vers chercher de nouvelles formes de capitalisme.
Ça vous paraît un modèle qui peut fonctionner au-delà de la PME? On peut imaginer des scopes de taille nationale, voire multinationale?
Alors, a priori, il n'y a pas de raison que une scope déjà intervienne dans n'importe quel type de secteur et aussi grossisse. Alors, il y a déjà des scopes qui sont de taille qu'on peut qualifier d'intermédiaire. Le passage à une situation de multinationale ne s'est pas vu jusqu'à présent. Ça. Disons, dans les éléments qui limiteraient ces possibilités, c'est que les multinationales ont tendance à grossir aussi par agglomération d'entreprises qu'elles rachètent. Et c'est un processus qui est en fait assez difficile au niveau des scopes. Et puis, il y a une problématique, en quelque sorte, de limite de la démocratie. Donc, dans les scopes, c'est un homme, une voix pour les décisions essentielles, pas au jour le jour, mais pour les décisions essentielles de l'entreprise. Si on avait une taille de 200, 300 000 salariés appartenant à plusieurs pays, c'est difficile de voir comment pourrait se jouer la dynamique. Imaginez par exemple qu'il y ait 100 000 salariés en France, 30 000 en Italie, et qu'il faille décider d'une réduction sur l'ensemble du groupe du nombre d'emplois. On voit mal les Italiens accepter la majorité française.
Du point de vue des salariés, est-ce que c'est pas un peu à double tranchant d'être quelque part son propre patron, ou en tout cas propriétaire du capital de son entreprise? On entend dans le reportage des gens qui disent c'est vrai, on est plus polyvalent, on a accepté d'être plus polyvalent, on travaille plus de temps en temps quand il faut mettre un petit coup. C'est voilà, on est son propre patron aussi quelque part.
Oui, certainement. Et c'est un des éléments qui fait que probablement les scopes ont aussi une plus forte pérennité. Mais je dirais que
Ils sont à la fois probablement en partie leur propre patron, ça joue certainement sur leur motivation. Il y a aussi le fait que d'accepter d'être salarié dans une SCOP, c'est adhérer à ce principe-là. Donc c'est peu étonnant que ces personnes-là se disent on est plus investi, on est prêt à être plus polyvalent, etc. Alors, il faut voir également que la polyvalence peut être vécue comme une contrainte ou au contraire comme un enrichissement du travail. Et ce que nous apprend la littérature, par exemple, en psychologie du travail, c'est que avoir une polyvalence, un travail intense, mais dans le même temps, avoir un sentiment et une réalité de marge de manœuvre, ce qui est le cas d'une certaine manière lorsqu'on est en partie propriétaire de son entreprise, c'est plutôt une situation relativement favorable pour les salariés. Par ailleurs, comme ils sont propriétaires d'une part de leur entreprise, ils gagnent une partie des revenus, des profits de cette entreprise. On voit bien que la participation, donc le reversement fait aux salariés, dans les SCOP, pour le coup, est très différent de ce qu'on constate dans d'autres entreprises. Il est à peu près le double d'une entreprise standard qui a un système de participation. Là où ça peut être à double tranchant, c'est que vous êtes propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise, que bien souvent des salariés ont mis une mise de départ au sein de l'entreprise et qu'en devenant capitaliste, il y a la prise de risque que l'entreprise capote et que cette mine, voilà, vous perdez votre capital, vous perdez votre mise.
Merci, Philippe Askenazy. Interception est réalisée par Anne Yoro, assistée de Stéphane Combe, attachée de production Christine Kern. La semaine prochaine, nous serons en Crimée, tout récemment annexée par la Russie. Dans quelques instants, le journal de 10h. Bon dimanche à tous.
Les salariés entrepreneurs. Merci Lionel Thompson. Si vous souhaitez approfondir ce sujet ou encore compléter votre information, notez que vous trouverez sur le site de l'émission une série d'ouvrages tels que « Ceux qui aiment les lundis, travailler en SCOP » de Jean-Robert Dantout. C'est paru aux éditions Chêne en 2012. Ou encore « Les SCOP au cœur de l'économie solidaire ». 15 présidents de coopératives répondent à Roger Essel. C'est édité en 2012 aux éditions de Broca. Et toujours sur le site de l'émission, il existe différents liens, comme par exemple « L'étonnant pouvoir des coopératives ». Suite au sommet international des coopératives qui s'est déroulé à la rentrée, entre le 6 et le 9 octobre 2014 à Montréal, un livre électronique a été édité par une centaine de chercheurs de 23 pays. Donc c'est à consulter sur le site de l'émission Interception que l'on retrouvera dimanche prochain entre 9h10 et 10h.